Dale, Sousa.
Mon nom est Antonio Cerezo Contreras. J'ai 32 ans. J'ai été en prison pendant 7 ans et demi, accusé de délinquance organisée. Je suis sorti en liberté le 16 février 2009, puis je fais partie du comité Cerezo.
Y pertenezco al comité Cerezo México.
Mi nombre es Héctor Cerezo Contreras, tengo 30 años.
Mon nom est Héctor Cerezo Contreras, j'ai 30 ans. J'ai été prisonnier aussi pendant 7 ans et demi pour le délit de délinquance organisée. Et je suis en liberté depuis le 16 février de cette année. Mon nom c'est Francisco Cerezo Contreras. J'ai pas été prisonnier, mais je suis coordinateur du comité Cerezo. Je fais donc partie du comité qui a travaillé à la libération de mes frères depuis l'extérieur.
Il y a deux aspects dont nous allons parler.
Tout d'abord, notre expérience en tant que prisonnier et les formes de résistance depuis la prison. Notre première forme de résistance en tant que prisonnier, ça a été de refuser de tomber dans l'oisiveté, d'écrire à chaque jour, à chaque fois que nous en avions l'opportunité. Écrire, que ce soit de la littérature, des contes, des nouvelles, de la poésie ou de la réflexion politique, sur ce qui se passait dans notre réalité, autant que sur l'actualité à laquelle nous avions peu accès via la radio. Il fallait aussi travailler pour être autosuffisant. Fondamentalement, il s'agit de ne pas permettre à la prison de nous voler notre idée selon laquelle un pays différent peut être construit. L'idée, c'est de rester fidèle à nos principes, ne pas laisser la prison changer notre conduite, ni dans la prison, ni changer nos idéaux de transformation sociale.
Pero tampoco nuestra idea de la transformación social.
Y bueno, afuera, nosotros lo que decíamos era la estrategia del Estado es crear miedo.
Depuis l'extérieur, ce que nous disions, c'était que la stratégie de l'État, c'est de provoquer la peur, de nous paralyser, de nous empêcher de travailler. Alors nous avons cherché à transformer la peur en motivation pour poursuivre la lutte. Parce que si on a la capacité de transformer cette peur en motivation, eh bien on va être capable de continuer indépendamment des situations que nous devrons affronter au cours de la lutte.
Sí, y ahora los mismos mecanismos de resistencia, ahora que estamos libres, pues es básicamente incorporarnos.
Depuis notre libération, nos mécanismes de résistance, ça a voulu dire joindre le comité Cerezo, qui aujourd'hui est une organisation de défense de droits humains, et pouvoir être solidaire avec toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont appuyé la lutte pour notre liberté et ont appuyé la lutte pour la liberté de tous les prisonniers et les prisonnières politiques et de conscience du pays. Nous nous efforçons de travailler en solidarité avec les mouvements sociaux et les personnes qui sont victimes de la répression de l'État. Nous accompagnons donc différents mouvements sociaux, différentes personnes.
C'est une herramienta más de la lucha.
Les droits humains, c'est un outil de plus de la lutte générale pour transformer la société en une société où les droits humains seraient une réalité. On n'a pas besoin de se battre pour se sentir inclus dans un projet politique plus large, au-delà du cadre des droits humains, parce qu'on fait partie de cette lutte. Si on essaie de combler toutes les formes de lutte, on rencontre des problèmes. C'est évident qu'il y a des limites très claires à cet outil. Nous faisons partie d'un mouvement social large et nous remplissons un rôle spécifique qui est la défense des droits humains. Selon nous, nous faisons partie des mouvements sociaux et en même temps nous l'accompagnons avec une fonction spécifique qui est la documentation des cas de violation de droits humains. On fait l'accompagnement des familles de prisonniers politiques ou de conscience, on fait l'élaboration des actions urgentes et les autres tâches que requiert l'utilisation des droits humains comme outil. Il n'y a pas de séparation ou de contradiction. Voir les droits humains comme une chose différente des mouvements sociaux, c'est selon nous une conception fausse que nous devons transformer.
Les organisations de droits humains sont séparées du mouvement social. C'est une conception équivocée que nous croyons que nous devons transformer. Las organizaciones de derechos humanos son parte del movimiento.
Les organisations de droits humains font partie du mouvement social. Elles apportent à son processus pour atteindre ses objectifs. Si son objectif, c'est la transformation sociale, alors les organisations de droits humains apporteront ce qu'elles ont apporté.
Les objectifs du mouvement social. Et si le mouvement social, lo que pretende es la transformación de esta sociedad, bueno, entonces las organizaciones de derechos humanos van a contribuir también a ese esfuerzo y a esa lucha del movimiento social. Cumpliendo una función muy específica.
Nosotros llevamos una parte de ese proceso, digamos, de la lucha.
Nous portons une partie de ce processus de lutte. Nous irons jusqu'où nous pouvons avec les droits humains, au niveau national et international. Mais il y a d'autres organisations qui participent et accompagnent le mouvement social. Et c'est la somme de tous ces efforts qui peut mener à obtenir justice, réparation, non-répétition. Et la non-impunité des acteurs de l'État qui ont violé les droits humains.
Nosotros estamos viendo que México está desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años está cambiando el modelo represivo.
Nous avons observé que depuis 8 à 10 ans au Mexique, le modèle répressif subit des changements inspirés du processus colombien, mais aussi des stratégies contre-insurrectionnelles nord-américaines et des stratégies contre-insurrectionnelles israéliennes.
L'expérience contre-insurgente norte-américaine et también la escuela contre-insurgente israélite. Entonces en México hay básicamente tres escuelas de represión.
En ce moment, il y a trois écoles de répression au Mexique qui convergent et que le gouvernement mexicain adapte aux conditions du pays.
La réunion las adaptó a las condiciones propias del país.
Alors on voit se développer une politique à long terme contre-insurrectionnelle.
A largo plazo de contrainsurgencia. Estamos viendo que ya se han reformado las leyes.
On observe des changements législatifs. Aujourd'hui, la criminalisation de la protestation sociale est légale.
Hoy ya se judicializa también la organización social.
On judiciarise les organisations sociales.
El Estado mexicano ha avanzado y hoy legalmente puede reprimir. Hoy las leyes ya no protegen.
L'État a avancé dans cette démarche juridique pour pouvoir légalement réprimer. Les lois ne protègent plus les droits humains du peuple mexicain. Et l'État a avancé aussi beaucoup dans la création de forces répressives, en formant d'une part la police. Aujourd'hui, la police fédérale préventive, c'est la copie de la police nationale colombienne. Une armée sous les ordres directs de la présidence, comme une force de contention sociale.
Como una fuerza de contención social. Y lo que estamos viendo también es el resurgimiento del paramilitarismo en México como un actor social que detiene, que tortura, que desaparece a luchadores sociales y a defensores de los derechos humanos.
On observe aussi la résurgence du paramilitarisme au Mexique comme un acteur social qui fait des disparitions forcées, de la torture, qui fait des détentions abusives, des militants et militantes des mouvements sociaux, mais aussi des défenseurs de droits humains. C'est un processus qu'on voit partout dans le pays. Ça se réalise pour l'instant de façon sélective, mais on voit déjà, comme c'est le cas de Atenco ou Oaxaca, que cela touche des populations entières où la contestation sociale est réprimée selon un nouveau modèle répressif. Nous avons appelé ce processus colombianisation.
L'hemos llamado como colombianización.
Bueno, en términos generales, se maneja desde los ámbitos, por ejemplo, norteamericanos, que colombianización es cuando el narcotráfico.
En termes généraux, du point de vue nord-américain, la colombianisation, c'est lorsque le narcotrafic et l'insurrection s'unissent contre l'État. Pour nous, la colombianisation, c'est lorsque l'État, à l'aide de ses bras cachés, que sont les narcotrafiquants et les paramilitaires, font la guerre contre toute la société. C'est une guerre qui affecte jusqu'au dernier recoin du territoire, parce que c'est justement une guerre pour le territoire. Une guerre pour le territoire, c'est d'essayer d'étendre son contrôle, que ce soit celui des narcotrafiquants, des paramilitaires ou de l'État, qui utilise à ce moment-là ses organes de répression sur le territoire. Alors l'idée, c'est d'obtenir ainsi un contrôle social sur tout le territoire, et donc un contrôle de toutes les personnes. Alors quand l'État, avec ses outils habituels, ne parvient pas à contenir le mécontentement social, il va faire appel aux stratégies paramilitaires, comme il le fait de façon tout à fait visible à Guerrero et Michoacán.
Que curiosamente también son las zonas donde el narcotráfico tiene una presencia muy importante.
Ce sont justement des zones de présence importante des narcotrafiquants et de grande mobilisation sociale. On dirait aujourd'hui qu'il y a trois armées. Les narcos, avec leur pouvoir militaire, l'armée mexicaine et la police fédérale préventive, qui est finalement l'armée déguisée en police.
Es el ejército disfrazado de policía.
Alors dans leur supposé affrontement, ils vont désorganiser la lutte sociale des communautés en assassinant de façon sélective, en utilisant des méthodes de terreur. Pas seulement l'exécution extrajudiciaire, mais aussi y faire passer le message clair que toutes celles et ceux qui s'opposeront aux intérêts des narcotrafiquants, de l'armée ou de l'État en souffriront les conséquences. Ça va être eux qui vont souffrir les conséquences, ou bien leur famille, leur entourage direct ou leurs organisations sociales.
Y eso nos afecta porque las organizaciones de derechos humanos empiezan a ser vistas como una fachada.
Ça, c'est un phénomène qui nous affecte directement, puisque finalement, les organisations de droits humains commencent alors à être traitées comme si elles étaient simplement des façades pour les délinquants qui tentent de déstabiliser l'État. Alors, on se fait accuser d'être des défenseurs de délinquants, de terroristes. Il y a même un parti politique au Mexique qui demande la peine de mort. Évidemment, c'est le Parti Vert écologiste.
Se conjunta esta situación política para criminalizar.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une conjoncture politique qui vise à criminaliser toute dissidence. Comme on le voit à Guerrero, ce sont les paramilitaires qui arrivent dans les communautés devant l'armée pour montrer du doigt les personnes qui seront emprisonnées, torturées ou assassinées.
Qui vont être détenues, qui vont être torturées, qui vont être assassinées. Donc, en ce sens, nous l'appelons colombianisation quand l'État utilise.
C'est ce qu'on appelle donc la colombianisation. Lorsque l'État utilise une main occulte, les paramilitaires, alliés aux narcotrafiquants et aux militaires, pour éliminer toute forme de résistance sociale. Et même pas à un niveau contre-insurrectionnel, parce qu'au Mexique, il n'existe pas une insurrection comme celle qui existe en Colombie. Ici, c'est seulement les organisations sociales et de droits humains qui souffrent les conséquences de cette répression.
Nous apprenons beaucoup de l'expérience colombienne, parce qu'ils llevan años.
Nous apprenons beaucoup de l'expérience colombienne. Ils vivent depuis des années une situation que nous commençons à peine à connaître, qui est celle du terrorisme d'État. Dans ce sens, en tant qu'organisation, nous apprenons beaucoup des organisations qui sont déjà passées à travers et qui ont survécu, ce qui est le plus important.